Aujourd'hui, il sera question d'un Saint Guillaume, d'un Saint Antoine-Marie, d'une Marie-Thérèse et d'un Saint Médard aussi, qui le nom est dépassé. Aujourd'hui, Médard, on n'en parle presque plus, mais c'est un très grand saint dans l'histoire de l'Église. Je commence donc avec Saint Guillaume. C'est Saint Guillaume d'York. Des Guillaumes, il n'y en a pas tellement, mais j'en ai connu un petit Guillaume, qui est le fils de Denise Bombardier, oui. Je l'ai bien connu, et j'en profite pour lui souhaiter une bonne fête. Je l'ai bien connu ici à Montréal, et puis à Paris, puis à la campagne. C'était un enfant, moi je l'ai connu il y a une dizaine d'années, il était bien sympathique. Et alors Guillaume d'York, ou d'York, en Angleterre, il était évêque. Il est mort en 1154. Son vrai nom, c'est Guillaume, ou William, si on veut, Fitzherbert, ou Fitzherbert. Il est né d'une grande famille anglo-normande, et on raconte que sa mère, Emma, était sœur du roi Étienne, ou Stephen, et que son père, le comte Herbert, ou Herbert, remplissait les fonctions de trésorier d'Angleterre. Donc, c'était une grande famille anglo-normande. Et vers 1130, 24 ans avant sa mort, Guillaume est devenu chanoine d'York. Mais la cathédrale d'York est très belle en Angleterre, et l'archevêque d'York, anglican, est très réputé en Angleterre. C'est un homme puissant dans l'Église anglicane. Et alors, mais à cette époque, tout le monde était catholique. Il n'y avait pas, l'anglicanisme est apparu beaucoup plus tard, après 1530, n'est-ce pas? Et alors, il est devenu chanoine d'York, il était aussi trésorier de la cathédrale, et l'archevêque est mort en février 1140, 10 ans plus tard. Et alors, le chapitre, c'est-à-dire l'ensemble des chanoines, les prêtres qui récitaient l'office comme des moines dans la cathédrale, je le rappelle, n'est-ce pas? Après de longues discussions, ben, ils ont fixé leur choix sur l'abbé de Fécamp, un moine, le père abbé, c'est le supérieur d'un monastère, comme chacun sait, n'est-ce pas, à Fécamp, Henri de Coyer, un Normand qui a refusé de quitter son abbaye. Alors, il a fallu recommencer l'élection, c'était une atmosphère troublée, paraît-il, et en janvier 1142, 2 ans après la mort de l'archevêque, eh bien, notre Guillaume, notre William, a tenu la majorité. Et l'archidiacre Osbert et les cisterciens, eux, qui soutenaient la candidature de leur confrère Henri Murdac, ou Murdoch, ne se montrèrent pas satisfaits du tout. Ils ont protesté, mais ils ont tellement protesté que l'archevêque de Canterbury, je vous rappelle, l'archevêque de Canterbury à l'époque était catholique, n'osa pas passé outre. Puis a renvoyé l'affaire au pape Innocent II. Vraiment, c'était... Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'il y a des problèmes et des discussions dans l'Église. Il y en a toujours eu, il y en a toujours eu partout où il y a des hommes, où il y a des femmes. On dirait que les êtres sont difficilement capables de s'entendre sur tout. Il y a des occasions de disputes. Et alors, le pape Innocent II a reconnu solennellement que Saint Guillaume n'avait pas usé de simonie, c'est-à-dire il n'avait pas payé pour obtenir son poste, il n'avait pas bénéficié non plus de la protection royale, parce qu'il fallait bien faire attention pour que ce soit pas le roi qui nomme l'évêque, hein, ou qui l'installe. Innocent II luttait contre ça. Et puis, il a ordonné, le pape, à l'évêque de Winchester, son légat, de sacrer Guillaume évêque. La cérémonie a eu lieu le 26 septembre 1143, donc 3 ans et demi après la mort de l'archevêque. Ça a été long. Et le peuple d'York a très bien reçu son nouvel archevêque, d'autant plus que le doyen Osbert, dont il a été question tout à l'heure, était entre-temps devenu évêque de Durham. Et accaparé par les affaires de son diocèse, eh bien, notre Saint Guillaume d'York ne prit pas de temps à demander, comme il se doit, le pallium. Je vous expliquais l'autre jour, n'est-ce pas? C'est cette espèce de collier de laine blanche avec des croix noires dessus, qui est le signe du pouvoir archiépiscopal étroitement rattaché au siège de Rome, qui est le siège qui mène l'Église, qui conduit l'Église au nom du Christ, qui est le pape, évidemment. Je donne ces petites explications-là au cas où des jeunes m'écouteraient et sont moins au courant de ce qui se passe dans l'Église. Hein. Je ne dis pas ça pour les gens plus avertis. Là. Donc, il a demandé le pallium au légat Inmar, qui regagna Rome à la mort d'Innocent II. Et le successeur de Innocent II, Eugène III, était un cistercien. Vous voyez venir, là. Ce cistercien était plutôt enclin à écouter Henry Murdoch, là, qui était devenu abbé de Fountains, la fameuse abbaye de Fountains en Angleterre, dont il a déjà été question au sujet d'autres saints. Et alors, là, ça a été la complication. Le pape cistercien préférait un cistercien à ce Guillaume. Alors, il y a des mauvais bruits qui ont circulé autour de l'élection de Guillaume. On l'a accusé d'avoir demandé avec beaucoup de retard son fameux pallium au pape. On l'a accusé même d'avoir remis son serment de fidélité au pape. C'est l'évêque de Durham qui l'a accusé de ça. Et puis, ça a indisposé tellement le nouveau pape cistercien contre lui que le pape Eugène III, et cistercien, l'a déposé au concile qu'il a présidé à Paris en 1147. Puis il a nommé à sa place le fameux Henry Murdoch, qui était cistercien lui-même, et abbé de monastère cistercien. Et alors, le pape l'a sacré le 7 décembre 1147, à Paris, puis lui a donné le pallium. Et notre pauvre Guillaume s'est soumis, humblement, sans protester à cette injustice flagrante. Il s'est retiré à Winchester, où il a vécu simplement au milieu des moines. C'est pour vous dire comme... ça me rappelle notre archevêque à Montréal, Monseigneur Joseph Charbonneau, qui dans une injustice épouvantable, je m'en souviens très bien, nous l'aimions beaucoup à Montréal, et dans une injustice terrible... À la fin des années 40, il a été démis de ses fonctions, puis s'est retiré dans l'ouest du pays, près du Pacifique, n'est-ce pas, en Colombie-Britannique, sans protester, sans rien dire. Quel admirable geste de sa part, et je crois que c'est le meilleur geste qu'on peut faire dans l'Église, c'est que lorsqu'on est traité injustement, c'est de souffrir ces choses sans protester outre mesure. Et c'est le cas de notre saint Guillaume d'York. Et la mort d'Eugène III, ce pape cistercien, qui est survenu en 1153, de même que la mort de l'évêque Henry Murdoch, qui avait remplacé Guillaume, quelques jours plus tard, lui ont laissé la place libre. Alors, Saint-Guillaume a fait valoir ses droits auprès du pape Anastase IV, qui avait remplacé Eugène III. Et le pape Anastase IV a très bien compris ce qui s'était passé. Il a accueilli favorablement la demande de notre saint, puis lui a envoyé le pallium. Alors là, les habitants d'York ont fait un accueil triomphal à leur archevêque qu'ils aimaient beaucoup. Une grande foule s'était massé sur un pont de bois, imaginez, qui s'est écroulé sous leur poids. Mais il n'y eut ni mort ni blessé dans cet accident, et la popularité de l'archevêque s'en accrut, évidemment, parce qu'on a attribué cette protection miraculeuse à ses prières. Et alors, saint Guillaume a apaisé les esprits. Il a pardonné généreusement à tous ses ennemis. Vraiment, là, il a pratiqué le pardon à fond, dit-on. C'était absolument admirable. Il a rendu visite même aux moines cisterciens de Fountains en leur promettant sa protection. Il est allé jusque-là. Mais malheureusement, Guillaume est tombé malade. en célébrant la messe dimanche de la Trinité. Je me demande s'il n'aurait pas été empoisonné. Ça se faisait à l'époque. Hein? On empoisonnait comme ça des gens un peu partout, quand on voulait s'en défaire. Ça se pratique aujourd'hui dans certaines régions d'Afrique où, sous l'impulsion et les gestes des sorciers, on pratique l'empoisonnement. Je me souviens, en 1971, au Cameroun, j'avais rencontré un frère du Sacré-Cœur, admirable, qui avait été magicien avant de se faire frère, et qui avait la direction d'un collège à Macaque. Et ce collège des frères du Sacré-Cœur, tenu par des Québécois, des nôtres, enseignait à des jeunes gens du Cameroun, et le frère m'a raconté que deux frères, c'est-à-dire deux jeunes garçons qui étaient frères de la même famille, donc, avaient été empoisonnés 2 ans de suite, au temps de Noël, par le sorcier, parce qu'ils s'étaient opposés à certains gestes et certaines idées du sorcier. Ils avaient été empoisonnés récemment, hein, vers 1970, et le frère était très chagriné par ça parce que c'était deux de ses meilleurs élèves. Deux jeunes gens d'environ 18 ans. C'est terrible, hein? Vraiment épouvantable. Alors donc, pour revenir à notre Saint-Guillaume, il est tombé malade, donc en célébrant la messe, le dimanche de la Trinité, je vous ai dit, il est mort 3 jours plus tard, le 8 juin 1154, exactement un mois après son retour à York. C'est ce qui me laisse croire qu'il aurait été empoisonné par des ennemis. Que des gestes soient posés comme ça, il ne faut pas trop s'en scandaliser. C'est une minorité de gens qui sont cruels et méchants. La majorité des gens sont généreux et observants, je crois. Alors, il a été enterré dans une chapelle de la cathédrale, et à cause de la renommée suscitée par les miracles qui s'accomplissaient à son tombeau, eh bien, le pape Honorius III l'a canonisé en 1226, 77 ans après sa mort, et son corps fut transporté dans la nef en 1284, en présence de nul autre que le roi d'Angleterre, Édouard Ier. Et malheureusement, les reliques de ce grand saint, à mon avis, sont disparues au cours du 18e siècle, dans les persécutions qui se sont faites contre l'Église catholique, malheureusement, par nos frères protestants ou anglicans, mais on n'est pas exactement sûr de qui a fait disparaître les reliques. Et maintenant, nous allons parler de Saint-Antoine-Marie Gianelli, qui, je pense, a été canonisé par Pie XII. C'est un saint récent. C'est un évêque encore, mais un évêque absolument ordinaire, tout à fait ordinaire. Vous allez être surpris, pourquoi l'a-t-on canonisé? Il est mort en 1846. Il est né à Cerreto, dans l'archidiocèse de Gênes, donc tout près de la France, le 12 avril 1789. Encore un autre qui est né au moment de la Révolution française. On en a eu ces jours-ci. Il était né d'une bonne famille. Et tout jeune, il s'est fait remarquer par sa piété envers la Sainte Vierge. Souvent, les saints au 19e siècle, n'est-ce pas, sont remarquables pour ça. Au 20e siècle aussi. Hein. Et il était très docile, mais il avait de grands dons intellectuels. C'était un enfant très moral, très sympathique. Une bienfaitrice, alors, lui a donné les moyens de venir étudier à Gênes. Et il est entré au séminaire à 19 ans. Il n'était que sous-diacre lorsque ses supérieurs l'ont déjà jugé digne de prêcher, ce qui était exceptionnel, parce que, habituellement, il fallait au moins être diacre. Et puis, grâce à une dispense d'âge, il a été ordonné prêtre en 1812, le 23 mai, à 23 ans seulement. Imaginez, prêtre à 23 ans. Habituellement, les prêtres étaient ordonnés à cette époque, comme d'ailleurs quand j'étais jeune, à 24 ans, hein, 24 ans, 25 ans. C'était très jeune, mais on ne permettait pas à 23 ans. Je me souviens de quelques rares cas à Montréal de prêtres qui ont été ordonnés à 23 ans, mais ça prenait une dispense spéciale. Et alors, Antoine-Marie s'est mis vraiment sous le patronage de Marie. Il a décidé de mettre toute son activité sous le patronage de celle qu'il appelait la Mère de Dieu. Il a été absolument étonnant dans son archidiocèse. Il a été, de Gênes, n'est-ce pas? Il a été comme un missionnaire. Tout jeune, il avait une âme de missionnaire particulier, quoi. Son confessionnal était, dit-on, assiégé. Il avait de la difficulté à sortir de son confessionnal, tellement il y avait des gens de chaque côté qui attendaient pour recevoir ses conseils. Il était professeur de rhétorique au collège, préfet des études, préfet de discipline au séminaire de Gênes. C'était un homme très ordinaire, quoi. Mais bon et rayonnant. Il s'est livré au ministère paroissial à l'église abbatiale de Saint-Mathieu à Gênes, puis il a été nommé archiprêtre de l'église Saint-Jean, ou San Giovanni, à Chiavari, en 1826. Et puis Antoine-Marie Gianelli est resté là 12 ans. Et dans cette ville, à Chiavari, il a fondé deux congrégations religieuses, les missionnaires de Saint-Alphonse de Ligorie et les sœurs de Sainte-Marie de l'Orto, c'est-à-dire du jardin, si vous voulez. Et ces religieuses, vouées à l'éducation des jeunes filles et aux soins des malades, se sont répandues par toute l'Europe, même en Amérique et en Asie. Hein. Et en 1838, à peine 10 ans plus tard, il a été nommé évêque et il a été ordonné à Bobbio, dans la province de Pavie. Alors, il a été consacré le 7 mai, il a pris possession de son siège le 8 juillet. Puis, ce fut, dit-on, un pasteur tout simplement de vie simple, sobre, laborieux et très zélé. Comme je vous ai dit, c'était un évêque absolument ordinaire, dans un sens. Antoine-Marie Gianelli. Gianelli, ça s'écrit G-I-A-N-E-2-L-I. Alors, son corps, qui a été rapporté à Bobbio, dans cette ville de Bobbio, il est en grande vénération encore aujourd'hui. Hein. Sa cause de canonisation a été introduite à Rome en 1896, et puis il a été proclamé bienheureux par Pie XI en 1925. C'est à l'époque de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, où elle a été canonisée, elle aussi. Puis, alors, finalement, il a été canonisé par Pie XII. Je voudrais vous dire quelques mots, maintenant, d'une femme très étrange et très étonnante. C'est une fondatrice, mais c'est un cas tellement pénible que... Mon Dieu, c'est une vie qui ressemble à celle de plusieurs fondatrices, même ici... La fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne, ici à Montréal, a enduré bien des souffrances. Un jour, je vous en parlerai, des Sœurs de Sainte-Anne qui ont été les sœurs qui ont formé ma mère au couvent de la Chine, une grande partie des femmes de ma famille, d'ailleurs, les Sœurs de Sainte-Anne auxquelles on doit le Centre Christus à Montréal, sur la rue Christophe-Colomb, au coin de Beaubien, où l'on donne des conférences absolument superbes. Je dis pas ça parce que j'en donne, je dis ça parce qu'ils ont des conférenciers vraiment remarquables. Et alors, la bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran est morte en 1889, il y a à peine un peu plus de 100 ans. Elle était la fondatrice de la Société de Marie Auxiliatrice. Elle est née à Castelnaudary, près de Carcassonne, dans le sud de la France. Carcassonne, que j'espère vous êtes déjà allé voir, c'est une ville fortifiée absolument superbe, c'est très intéressant à visiter. Elle est née en 1834, un 16 mai. Elle a reçu le baptême, c'est peut-être un signe, la veille de la Pentecôte, et on l'a nommée, parce qu'elle était de famille noble, on l'a nommée de 4 prénoms, Sophie, Thérèse, Augustine et Marie. Mais elle portait le nom de Marie-Thérèse. Son père, qui était baron de Soubiran-la-Louvière, et sa mère Noémie de Gélis se flattaient d'avoir parmi leurs ancêtres le bienheureux pape Urbain V lui-même, des princes et des rois, et le fameux Saint-Elzéar, comte de Sabran. J'ai déjà assisté à un mariage de famille noble comme ça, à Saint-Pierre-du-Roule, à Paris. Par hasard, la traîne de la mariée allait jusqu'au centre de l'église, et le prêtre avait dit au couple qui se mariait, « Oh, vous qui comptez parmi vos ancêtres, tant de généraux, de maréchaux de France, le duc un tel, etc. » C'était très, très, très solennel. C'était en 1950, je suis sûr que les prêtres font plus ça maintenant. J'espère, en tous les cas. C'était un peu snob, n'est-ce pas? Alors donc, elle est née dans une famille noble et très distinguée. Il y a 3 ans et demi, bien, notre Sophie-Thérèse, ou Marie-Thérèse, fut guérie d'une typhoïde très grave. Grâce, selon les témoins sérieux, au fait qu'on l'a déposé autour de son cou un scapulaire de Notre-Dame. Ça peut sembler superstitieux à certaines oreilles, je n'en doute pas, mais croyez-moi, ça existe, ça se fait, et ça se fait dans la foi. C'est la foi des parents, et peut-être la petite foi naissante de ce petit enfant qui a obtenu cette grâce extraordinaire. Et en reconnaissance, elle est entrée très tôt dans la congrégation des Filles de la Vierge, qui était dirigée par son oncle, l'abbé Louis de Soubiran. Et sous sa direction de cet oncle, bien, cette petite fille a grandi très vite en vertu. Je vous assure, à cette époque, c'était rempli de jeunes filles très, très imprégnées de la foi chrétienne. J'ai des livres là-dessus chez moi, c'est bouleversant de lire ça. C'est en particulier des enfants qui sont morts très jeunes, au couvent des oiseaux à Paris, et c'est très, très émouvant de dire ça. Et sous la direction, donc, de son oncle, eh bien, elle a fait sa première communion à 12 ans, puis elle s'est offerte ce jour-là à Dieu, avec une intensité très forte. À 14 ans déjà, comme une enfant, mais une enfant sérieuse et assez avertie, dit-on, elle a fait déjà, en privé, le vœu de virginité. Et déjà son horaire quotidien, c'était celui d'une religieuse. En somme, après la messe quotidienne, à laquelle on assistait facilement, moi, dans mon enfance, mes 3 frères et moi, nous assistions tous les jours à la messe, 365 jours par année. C'était considéré pour nous comme normal. On faisait ça normalement. Mes frères étaient très sportifs, c'était des premiers de classe. Bon, ça ne les empêchait pas d'aller à la messe tous les jours, et moi aussi, je suivais, j'étais le 4e. Et alors, elle allait beaucoup plus loin que nous. Elle déjeunait au pain sec après sa messe. Et le soir, elle s'endormait, c'est assez exagéré, mais enfin, sur une planche qu'elle glissait dans son lit. J'espère qu'elle mettait la planche en dessous de son matelas, la pauvre. Et alors, à quoi rêve-t-elle? Elle veut devenir carmélite. Son oncle et l'évêque de Carcassonne lui suggèrent plutôt d'aller dans un béguinage, comme on en trouvait en Belgique. Hein, vous êtes déjà peut-être allé voir ces béguinages en Belgique. Les femmes y demeurent isolées, sous une supérieure, avec promesse de chasteté et d'obéissance. C'est une vie, au fond, de religieuse, mais pas tout à fait. Et alors, en 1854, elle expérimente cette vie-là à Gand. Puis elle revient en France, elle n'est pas jeune, 1854, c'est 60 quelques années. Hein. Elle revient en France, puis son père étant mort, bien, elle s'installe dans une petite maison, qu'elle appelle le Bon Secours. Et en 1855, des femmes qui viennent auprès d'elle émettent leur profession. Et elle devient supérieure. Et alors elle ébauche pour les petites indigentes un régime de vie de plus en plus religieux, mais le feu dévore le couvent. Oh, je m'excuse, elle était née beaucoup plus tard, elle était née en 1834, donc elle était toute jeune, et le feu dévore, et donc c'est le labeur de 6 ans qui s'envole en fumée, mais la jeune supérieure, car elle était jeune, après avoir consulté son évêque et puis le père Paul Ginac, un jésuite très fameux à l'époque, lui font faire une retraite d'un mois, puis elle décide de fonder vraiment sa congrégation de Marie Auxiliatrice. Et ce nouvel institut, qui est d'esprit tout à fait inspiré de saint Ignace de Loyola, a pour âme la recherche de la gloire de Dieu. On décide de s'occuper des jeunes citadines qui sont très pauvres. On pratique l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. On a l'office du Sacré-Cœur. Il y avait une grande dévotion au Sacré-Cœur à cette époque. Alors on récite ça chaque jour. Et pendant la guerre de 1870, bien, elle est obligée de se sauver à Londres avec plusieurs de ses filles. Mais en 1868, arrive une catastrophe. Entre dans la congrégation une fausse veuve, une personne d'âge mûr et qui semble douée de toutes les qualités et qui font les grandes supérieures. Mais en fait, cette fausse veuve est vraiment très hypocrite. C'est une intrigante. Elle s'impose, elle supplante la fondatrice, notre mère Marie-Thérèse de Soubiran. Elle est nommée assistante générale, et puis elle s'appelle Marie-François de Borgia, mère Marie-François de Borgia, cette nouvelle sœur. Elle ne cesse de reprendre et d'humilier, puis de mortifier la supérieure, la fondatrice. Et celle-ci, dans son humilité, se laisse persuader que sa démission est l'unique moyen de sauver sa fondation d'une catastrophe financière. Et mieux que cela, il faut qu'elle s'en aille. Alors, la pauvre quitte ses filles, à qui elle avait tout donné, son argent et son cœur. Et après diverses rebuffades, eh bien, le 20 septembre 1874, elle vient demander l'hospitalité à Notre-Dame de la Charité, une maison à Paris, une fondation de Saint-Jean-Eudes. Elle y fait profession finalement en 1877. Elle a quitté sa congrégation qu'elle avait fondée. Elle s'occupe de petites besognes. Et l'humilité, l'effacement et le travail consciencieux, c'est toute sa vie. Elle est toute tendue vers l'au-delà, vers Dieu. Et elle s'écrie, ô richesse du moment présent, que vous êtes infinie, car vous contenez mon Dieu. Pourquoi ne pas vous aimer? Pourquoi ne pas me renfermer tout entière en vous? C'est la richesse du moment présent. Elle est un peu, en somme, existentialiste. C'est le moment présent. Une existentialiste croyante. Et le 3 janvier 81, sa sœur Marie de Soubiran, qui s'appelle Marie-Xavier, chassée elle aussi de la fondation de Marie Exiliatrice, elle vient elle aussi à Notre-Dame de Charité à Paris. Et alors, c'est un crève-cœur pour Mère Marie-Thérèse. Elle apprend que son œuvre est complètement métamorphosée, moralement morte. Alors courageusement, elle offre ce qui lui reste, sa vie, pour que cette œuvre en perdition renaisse. Elle épuise ses dernières forces à son devoir d'État. Elle essaie de rester douce, souriante, malgré la défiance qu'on lui montre. On pense que cette fondatrice n'a pas l'esprit de la maison et risque de gâter la jeunesse. Puis elle meurt le 7 juin 1881. Et maintenant, nous allons parler de ce fameux Saint-Médard. C'est un des saints les plus illustres de l'histoire de l'Église, mais il est mort il y a si longtemps qu'on l'a oublié au XXe siècle, Saint-Médard. Il est mort en 545, c'est pas d'aujourd'hui. Mais ça vaut la peine que je vous raconte ce qui s'est passé assez brièvement. Il a vu le jour en France, près de Noyon, au village de Salancé. Son père était un seigneur franc, n'est-ce pas? Il occupait une haute place à la cour du fameux roi Childebert. Il était païen, son père, mais il avait épousé une chrétienne qui l'entraînait finalement à aimer Dieu comme il faut, et puis sous son influence, bien, il s'était converti. Alors le petit Médard, lui, très jeune, a témoigné d'une grande compassion à l'égard des pauvres. Et vous savez, ça existe. Si vous entraînez vos enfants très jeunes à donner un peu d'argent à un itinérant dans la rue, ou à visiter des pauvres, ou à s'occuper un peu des malades, si vous l'amenez, mettons, dans un hôpital, voir des enfants malades, à Sainte-Justine ou ailleurs, ou à l'hôpital des enfants, au métro à 3 heures, Aussi, vous l'amenez dans des hôpitaux, voir des gens âgés. Des jeunes enfants de 10-12 ans sont capables de grande générosité, ne serait-ce que pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et ça les marque. Et le petit Médard, donc, témoignait d'une grande compassion à l'égard des pauvres. Et un jour, qu'il traînait un manteau neuf, il a rencontré un enfant aveugle qui était presque nu. Alors, il le lui a donné. Et sa mère, loin de le gronder, l'a admiré et l'a félicité. C'est assez exceptionnel. Hein? Selon l'antique coutume des filles de des fils de famille noble, eh bien, Médard gardait, on est au VIe siècle, gardait les troupeaux de son père. Souvent, il se privait de son repas qu'il avait emporté pour le donner à des malheureux, en lesquels il voyait le Christ Jésus. Un de mes frères faisait ça à l'école supérieure Saint-Viateur. Il apportait son lunch et souvent le donnait aux autres. Il avait, notre Médard, un ami nommé Éleuther qui lui prédit qu'il deviendrait comte, puis évêque de Tournai. Puis cette prophétie s'est réalisée et ça a même mené notre Éleuther à la sainteté. Saint Éleuther est un saint très connu de cette époque. Alors le père de notre saint Médard l'avait chargé de conduire ses chevaux un jour dans un pré. Et Médard vit venir un villageois qui portait sur son dos un harnachement. Il était accablé, puis il semblait à peine pouvoir avancer. Et le jeune garçon s'est demandé où il s'en allait comme ça. Mais qu'est-ce qu'il avait fait de son cheval? Et l'homme a répondu à Médard en se lamentant que son unique cheval venait de mourir, puis que cet harnachement, bien, c'était tout ce qui lui restait. Alors Médard a voulu, de toutes ses forces, qu'il choisisse un cheval parmi les siens, les chevaux de son père, et puis qu'il y mette le harnachement sur le dos d'un cheval. L'homme, consolé, a pris un cheval, a mis le harnachement sur la croupe du cheval, est monté, et s'est parti au trot. Et après cet acte de bonté, bien, la légende nous raconte qu'en signe de bénédiction, la pluie qui s'était mise à tomber n'a jamais atteint Médard. On raconte même dans une autre légende qu'un aigle est venu du ciel et s'est tenu au-dessus de la tête avec ses ailes pour l'abriter. C'est un peu fort. Mais que la pluie n'ait pas atteint Médard, c'est un genre de miracle qui s'est, paraît-il, survenu assez souvent. On dit ça. De toute façon, il est survenu à la suite de ça toutes sortes de dictons en France au sujet de Médard et de la pluie, que si le jour de la Saint-Médard, comme aujourd'hui, il pleut, il pleuvra pendant tant de jours, etc. Bon, peu importe, c'est très peu intéressant ces détails-là. Mais là, notre Saint-Médard, il fallait bien qu'il s'instruise. Il a été envoyé à Vermand, ou si on veut, à Saint-Quentin, qui est la capitale de la Picardie. Puis finalement, il est allé à Tournai, où le roi Childebert tenait sa cour. Et là, l'évêque de Tournai l'instruit lui-même de la Bible, parce qu'il trouvait l'enfant remarquable. Il a admiré la ferveur de Médard, son humilité, et puis les mortifications très simples qu'il pratiquait. Et notre saint Médard apparaissait vraiment comme un privilégié de Dieu aux yeux de cet évêque. Alors il a été ordonné prêtre. Et toute la région du Vermandois a été dans l'édification. Les gens admiraient les vertus de notre jeune Médard. On citait maintes faits étonnants, des petits faits. On raconte qu'un voleur entré dans les vignes de Médard, la nuit, n'a jamais été capable de retrouver la sortie. Il a dû attendre, avec une grande confusion, la venue de notre saint le lendemain pour en sortir. Bon, c'est sympathique. Au fond, peut-être voudrait-on dire par ces récits que Médard savait libérer les gens de leurs péchés. C'est comme ça que je prends cette fable, et qui peut-être pas une fable, mais c'est un peu comme une parabole, les paraboles que notre Seigneur nous racontait. Et il nous raconte toujours. Un autre voleur ayant volé du miel, on dit qu'il a dû recourir à Saint-Médard, qu'il dépouillait, pour le délivrer des abeilles qui le harcelaient. On raconte aussi que Médard en imposa tellement aux soldats du roi Clotaire pour leur faire rendre le butin qu'ils avaient pris dans le pays, que les soldats devenaient honnêtes et cessaient de voler, comme font souvent les soldats, dans le moment des guerres. Au milieu de son apostolat, Médard n'oubliait pas sa patrie d'origine. Il passait pour avoir institué à Salancé, le village d'origine, cette charmante fête qu'on appelle la fête des rosières. C'est assez sympathique. On dit que la meilleure fille du pays, pour cette fête, la plus sage, recevait une couronne de roses, et même une dot, ou une dot si vous préférez. Et la première fille désignée fut la propre sœur de Saint-Médard. Et dès lors, chaque année, au jour de la fête de Saint-Médard, ben, la jeune qu'on appelle la rosière, elle est vêtue de blanc, les cheveux lui flottent sur l'épaule. Elle se rend à l'église, accompagnée de sa famille et de 12 jeunes filles, un peu comme la reine du carnaval, si on veut, avec les 12 duchesses là, à Québec. Mais là, c'est plus sérieux, c'est des questions de vertu. Hein. Puis ayant chanté vêpres, le peuple se rendait en procession à la chapelle de Saint-Médard, où le prêtre bénissait la couronne posée sur l'autel, puis il en couronnait la jeune fille en lui remettant sa dot ou sa dot. Et la rosière, n'est-ce pas, c'est la jeune fille, couronnée de roses, était reconduite à sa paroisse où se chantait un tédéum. Et ainsi, ça attirait l'attention sur la jeune fille la plus intéressante de la ville, du village, et les jeunes gens décidaient de la courtiser pour avoir une bonne épouse. C'est des coutumes sympathiques qui nous ont été laissées par de nombreux saints, c'est celles laissées par Saint-Médard. À l'âge de 72 ans, Saint-Médard a été élu évêque, imaginez, à 72 ans, évêque de Vermand. Il a été sacré par Saint-Rémy. Puis là, il s'est mis à parcourir son diocèse, faisant la chasse à l'idolâtrie. On en aurait du travail à Montréal pour faire la chasse à l'idolâtrie. Hein? Et là, il a eu l'immense douleur de voir son pays était dévasté par les Huns, les Vandales, ces barbares qui descendaient sur les régions habitées par les chrétiens. Mais un jour, sa présence très courageuse face aux envahisseurs a arrêté les massacres. Je me souviens du pape à Rome qui avait fait la même chose devant les Vandales. Et la ville de Vermand a été réduite en ruines par ces Vandales. Alors il a transporté son siège à Noyon, et sur le désir de Saint-Rémy, qui l'avait consacré évêque, le désir aussi de Clotaire, le roi, et de tout le peuple, eh bien Médard a gouverné aussi le diocèse de Tournai. Les habitants de la Flandre, car Tournai, c'est en Flandre, n'est-ce pas? Les habitants de la Flandre l'emportaient en superstition à cette époque, puis en férocité sur les nations françaises, les nations gauloises. Ces Flamands n'avaient pas bénéficié vraiment de la civilisation des Romains, puis ils ignoraient tout de l'Évangile. Quand on ignore tout de l'Évangile, on sombre souvent, pas toujours, mais on sombre souvent dans un paganisme invraisemblable. Je crains d'en avoir vu les effets lors des manifestations qu'on a vues à la télévision devant l'église Notre-Dame, comme je vous disais l'autre jour. Ces cris, je préfère ne pas en parler. Alors les idolâtres de Flandre et les barbares ont fait subir à Saint-Médard des maux incroyables. Mais il a échappé à la mort et son amour, plus fort que leur cruauté, a rempli toute la région, on peut dire, de la lumière même de l'Évangile, de la lumière même de Jésus-Christ, qui est la lumière. Il l'a dit, hein, « Je suis la lumière ». Après la conversion de la Flandre, Saint-Médard est retourné à Noyon, où il a donné le voile de diaconesse à nul autre qu'à la reine mère, la reine elle-même, sainte Radegonde, qui s'est retirée de la cour et qui s'est consacrée à la vie religieuse. Pourtant, elle était mariée au roi Clotaire. Mais le roi a accepté que sa femme entre en religion. Ça se pratiquait à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est impensable. Il faut que la femme et le mari entrent tous les deux en religion. Ça se pratique au XXe siècle. Ça se fait encore aujourd'hui. Alors, peu après, la maladie a attaqué notre Saint-Médard. Il a compris que sa mort arrivait. Et le roi Clotaire, qui avait perdu sa femme, au fond, Saint-Radegon, qui était entré en religion, est venu recevoir la dernière bénédiction de notre fameux Saint-Médard. Et maintenant, je voudrais vous dire un mot, avant de continuer, du peuple du Soudan. Le peuple catholique du sud du Soudan qui souffre le martyre. On en parle si peu que je crois de mon devoir d'en parler sur les ondes. Puisque nous parlons des saints, des martyrs, il en existe encore aujourd'hui. Et c'est regrettable que ce soit le fait de musulmans, car il y a beaucoup de musulmans que je connais qui sont des hommes honnêtes. J'ai parcouru plusieurs pays musulmans, que ce soit la Turquie où un de mes frères, Guy, a vécu pendant 5 ans, a beaucoup aimé les Turcs de près, il les a connus de près. Et moi-même, je suis allé à Constantinople, j'ai rencontré des musulmans au Liban, en Israël, en Égypte. J'ai des amis algériens, musulmans fervents et très sympathiques. Mais il faut reconnaître, c'est un article qui est paru dans La Croix le 24 mai dernier, où on nous dit que parmi les 30 premiers pays où les chrétiens sont persécutés actuellement en raison de leur foi, 24 de ces 30 pays sont malheureusement des pays musulmans. Je fais appel aux musulmans qui pourraient m'écouter pour qu'ils revendiquent la justice pour les chrétiens, pour les catholiques qui vivent dans des pays musulmans et qui y sont maltraités. Le Soudan, c'est un pays très important. C'est simplement dans le sud du Soudan, il y a 8 millions d'habitants, simplement dans le sud. Dans la revue Peuple du Monde, du mois de mars dernier, il y a eu un article très important donc sur le Soudan. Depuis des années, il s'y passe des événements dramatiques. Les médias observent tout ça dans un silence complice. Au Soudan, il y a des tortionnaires, et ce sont, je ne dirais pas des musulmans, mais des islamistes. C'est pas tout à fait la même chose. Il faut faire la distinction, et je tiens absolument à ce que chacun la fasse dans son cœur. Un musulman n'est pas nécessairement, et loin de là, un islamiste. On le voit bien, les musulmans qui sont tués constamment actuellement par des islamistes, ce sont souvent des musulmans profondément croyants, mais à l'esprit rempli de tendresse et de compréhension. Alors donc, il y a des tortionnaires qui sont des islamistes et des victimes qui sont les catholiques et aussi les animistes. Les animistes. Je vous rappelle que le Soudan est borné au sud par le Zaïre, l'Ouganda, le Kenya. À l'ouest, il y a la République Centrafrique. À l'est, il y a l'Éthiopie. Et le nord est peuplé par des musulmans, dont des islamistes qui sont en bonne partie le pouvoir. Le sud a une population catholique et animiste. Et depuis l'indépendance du Soudan, en 1956, eh bien, le Sud subit le joug du Nord, où se trouve la capitale, Khartoum. Je vous rapporte les faits qui nous sont donnés par Sœur Cecilia, qui est italienne. Elle est de la communauté des Comboniennes. C'est une communauté importante là-bas en Italie. Elle est dans le sud du Soudan, qu'elle habite depuis plusieurs dizaines d'années. Elle est connue, elle est accueillie partout dans le sud du Soudan. Et c'est le cœur brisé qu'elle nous révèle le sort réservé aux populations non musulmanes. Elle déclare ce qui suit, je la cite, « Les islamistes ont rasé tous les villages, déporté les populations et installé les leurs. Les régions du sud les intéressent aussi, car elles sont riches. Le sol renferme des minerais et du pétrole. Le climat permet 2 récoltes par an. Ils veulent dépeupler ces régions. » C'est la fin de la citation de Sœur Cecilia, qui, je vous le rappelle, vit dans le sud du Soudan depuis plusieurs dizaines d'années. Je vous signale qu'en 1972, après une âpre résistance, le Sud a obtenu une certaine autonomie politique et religieuse, et en 1983, les islamistes ont surgi et ont imposé la charia, la loi islamique, alors qu'il n'y a que 7% de musulmans dans le Sud. Imaginez imposer la loi, la charia, qui est une loi terrible. Vous savez que pour un simple vol, on peut couper une main. Pour un adultère ou des choses comme ça, on peut recevoir la bastonnade où on est fouetté en public. C'est terrible. Je m'excuse de raconter ces faits, mais je crois qu'il faut le dire au nom de la simple justice. Et je vous rappelle que je parle aussi au cœur de tous les musulmans qui pourraient m'écouter, afin que, avec nous, ils revendiquent, pour l'honneur de l'islam et l'honneur de toutes les religions, que justice soit faite. En 1989, il y a eu un coup d'État militaire à Khartoum, et sous l'influence de l'Iran, de l'Irak et du Maghreb, eh bien, l'oppression s'est intensifiée. Et en 1994, l'an dernier, Khartoum a rompu unilatéralement un traité conclu avec le Sud à Nairobi. Et l'évêque de Yambi, au Monseigneur Ghazi, a échappé plusieurs fois à la mort. C'est pas des farces, ça se déroule aujourd'hui. Voici ce qu'il disait, cet évêque, l'évêque de Yambio. Prêtre, au pluriel, prêtre de la Sainte Église, nous devons être prêts à mourir à l'exemple du Christ pour témoigner de sa vérité. Et la mère de cet évêque a ajouté, sous la loi islamique, les chrétiens sont comme les premiers d'entre nous qui subirent la persécution dans l'Empire romain. Ces martyrs de la primitive Église qui ont donné leur vie pour le Christ le donnent encore de nos jours et ils constituent l'espérance d'une vitalité prochaine du christianisme. C'est vraiment une mère d'évêque qui parle. La population donc du Sud-Soudan, je vous le rappelle, est évaluée à 8 millions en 1980. C'est plus qu'au Québec, ça. Elle n'est plus aujourd'hui que 4 millions. Elle vit souvent dans des conditions dramatiques. 1,5 million de Soudanais, de Sud-Soudanais, sont allés vivre dans les faubourgs de Khartoum, dans des conditions absolument indescriptibles. Personne n'en parle. Ce sont des chrétiens. Ce sont des catholiques ou des animistes. Et de plus, ce sont des noirs. Nous sommes racistes. Nous sommes vraiment des racistes. Ces gens-là sont méprisés par les musulmans qui les privent de nourriture. 1,5 million s'est réfugié dans les pays limitrophes. 1,1 million auraient été victimes de la guerre. Il faut prendre en compte aussi ceux qui sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Ils ont tout perdu. Et aux environs de Yambio, la ville où Mgr Ghazi est évêque, on en compte des dizaines de milliers. Les organismes non gouvernementaux, internationaux, doivent les prendre en charge et n'y parviennent guère. Je vous demande de prier pour les Sud-Soudanais. Je vous demande de prier aussi pour l'ensemble de l'Église persécutée, mais aussi prions pour l'islam, pour cette très grande religion. afin qu'elle soit fidèle à ce qu'elle est vraiment. Je vous signale que le cardinal Turcotte va ordonner demain soir, vendredi le 9 juin, à 20h, un prêtre, Alain Faubert. Il y a si peu de prêtres qui sont ordonnés. Prions pour Alain Faubert, qui est diacre et qui sera prêtre demain soir à 20h à l'église Saint-Pidis. Je vous donne l'adresse, c'est à Chomedey, 1065 boulevard Pidis, angle cardinal. Ce nouveau prêtre célébrera sa première messe d'action de grâce au sein de la communauté chrétienne de Saint-Urbain, sur la rue du Mouchel à Chomedey, dimanche à 11h, mais ce sera à l'école Simon Vanier. Enfin, je termine en vous signalant que si vous cherchez des noms à donner à vos enfants, procurez-vous chez Novalis, aux éditions Novalis, cet ouvrage intitulé « Des prénoms chrétiens », plus de 250 prénoms dans la tradition chrétienne. C'est un très, très beau livre. Les prénoms sont bien choisis. On a choisi des noms de saints qui sont applicables de nos jours. Et avec des explications sur les saints, il y a presque toujours une demi-page sur chaque saint, y compris Saint Guillaume, dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et c'est très, très, très intéressant. Ce livre n'est pas très gros, ne doit pas être très cher. Je vous rappelle le titre « Des prénoms chrétiens » aux éditions Novalis.